Le message d'aujourd'hui, ça fait un moment que j'y réfléchis, et puis il est né en quelque sorte d'une chanson que j'ai entendue à la radio, avec un refrain un peu insistant, que je vous fais écouter. C'est une chanson de Kali qui s'appelle « C'est quand le bonheur ?» Et je me suis dit, c'est une bonne question. Et en fait, je pense que vous avez la réponse à cette question. C'est quand le bonheur ? On vient de le chanter. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc voilà. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, c'est parce que j'habite dans la maison de l'Éternel, ou si j'habite dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le psaume 23 ce matin, mais juste rappeler quand même la logique de cela. Si l'Éternel est mon berger, si je ne manque de rien avec lui, ok. Mais il est aussi question dans le psaume de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, comme bonheur. Ça se discute, hein, à vues humaines. Il est question d'affronter des adversaires. Ça aussi, c'est une situation difficile, mais toujours avec l'aide de Dieu. Donc c'est une forme de bonheur un peu plus exigeante que celle qu'on imagine d'habitude. Alors le psaume parle d'habiter dans la maison de l'Éternel. Puis en fait, nous sommes dans une situation qui a un peu changé, parce que on sait, depuis que Jésus a fait son ministère, que c'est Dieu qui habite en nous par son Saint-Esprit, et nous, nous sommes dans le monde. Du coup, la question du bonheur, elle devient un peu plus complexe à cause de cette situation. Nous vivons ici-bas, dans une société déterminée, dans le monde, comme on dit en termes un peu en patois de Canaan. Et puis, le monde parle beaucoup du bonheur. Vous avez peut-être remarqué. C'est une question qui est souvent abordée, qui est souvent... on cherche des solutions pour être heureux. Il parle beaucoup du bonheur, il ne parle pas beaucoup de la grâce, par contre. Hein. Oh, le bonheur, la grâce... Non, non, le bonheur. Et... C'est quoi être heureux, si je regarde un petit peu ce que j'entends et ce que je comprends du bonheur ici-bas, ben, c'est avoir du succès dans la vie. Amour, gloire, argent, beauté, richesse, réputation, pouvoir, enfin tout ce qui en jette. Ça, c'est une définition du bonheur pour beaucoup de gens, apparemment, d'après en tout cas ce que j'en juge, de ce que je vois à la télé, dans les publicités, etc. Et quelque part, ça nous imprègne. Je veux dire, on sait bien que c'est pas ce qu'on... Mais enfin, on est exposé constamment à ce type de discours, à ce type de propos qui veut nous convaincre que c'est ça, le bonheur. Et on dit, ouais, mais quand on pense à ce qu'on souhaite pour nos enfants, est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi qu'on souhaite pour eux, c'est-à-dire une vie agréable, facile si possible, sans drame, où les choses se passent bien, où ils auront toujours suffisamment pour vivre à l'aise, etc. Et... Donc, humainement, ça nous touche, hein, et on voudrait trouver quelque part ce bonheur en cette vie, on voudrait s'accomplir de cette manière-là, et puis tout nous dit qu'il faut le faire, et nous avons de la peine à ne pas le croire. En réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est que le bonheur, et à force, on met sous ce mot beaucoup de choses, un peu n'importe quoi parfois. Hein, au fond, la réussite, d'après le publicitaire Seguela, qui répondait à quelqu'un qui disait « Oui, mais le président Sarkozy, il est assez bling-bling, vous avez vu sa montre, il a une Rolex. » Et puis Seguela avait dit « Oui, mais si on n'a pas de Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. » Alors, est-ce que c'est dans cette catégorie-là qu'il faut chercher le bonheur, les satisfactions dans la consommation? Bah, c'est agréable, hein, si on a les moyens de se payer des choses qui nous font plaisir, ça fait plaisir, un moment en tout cas. En même temps, c'est une forme de bonheur quand on voit certaines personnes haut placées qui ont la gloire, qui ont la richesse, qui ont le pouvoir, etc. Ils sont peut-être pas toujours beaux, mais Carlos Ghosn, vous avez entendu parler ? Hein, c'est le PDG de Nissan, Renault et compagnie. Il est en prison en ce moment parce qu'il a dissimulé la moitié de ses revenus, qui sont à 15 millions par année, je crois, au Japon. Je ne sais pas combien c'est en France, etc. Pierre Maudet, vous avez entendu parler ? Ou certaines personnes qui ont largement de quoi vivre, mais qui gratte encore ici, puis qui essaye d'avoir encore un peu plus de ça, etc. C'est dramatique, et ils sont au sommet de la gloire, et la chute, parfois, elle est vertigineuse. Il y a plein d'autres exemples. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une fois Top Model à la télé. Vous devriez, ça fait 31 ans que ça dure. C'est le plus vieux feuilleton de l'univers. Presque 8000 épisodes. Vous vous rendez compte ? Top Model, ça s'appelle en France Amour, Gloire et Beauté, je crois. Hein ? C'est le même. Et 8000 épisodes qui jouent sur les malheurs de gens qui ont tout pour être heureux, mais qui ne sont pas heureux. Hein ? Si vous voulez revoir tous les épisodes... Un épisode, c'est pas long, c'est 20 minutes. Mais 8000, ça fait 160 000 minutes. J'ai regardé, ça fait 110 jours, 24 heures sur 24. 110 jours, 24 heures sur 24. Ou bien si vous dites, ouais, non, mais je fais ça 8 heures par jour, pas plus, c'est pratiquement une année. Que ça. C'est assez sidérant. Alors, on se dit, bon, ben, avoir du succès dans la vie, c'est pas la solution. Apparemment, puisqu'on arrive à tirer 8000 épisodes des malheurs de gens qui ont tout pour être heureux, il y a un problème. On pourrait dire, non, mais ouais, il faut arrêter, c'est pas dans les choses extérieures qu'on va arriver à créer les conditions du bonheur. C'est en soi-même. Il faut travailler sur soi. Il faut s'accomplir, se réaliser soi-même. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ben voyons. S'aider soi-même, c'est. Ben, y a des ouvrages qu'on peut acheter qui nous permettent de trouver des conseils pour travailler sur soi-même, devenir soi-même, s'épanouir. Y a toute une industrie là aussi qui propose des produits qui devrait nous permettre d'être plus heureux. Beaucoup de livres sur le développement personnel, y compris chez certains philosophes qui ont trouvé un bon filon, là, chez Comte-Sponville, Frédéric Lenoir, Luc Ferry et d'autres, ces tendances. Et puis, en fait, le bonheur, il est en vente à la poste. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le rayon des livres à la poste, c'est que ça, ou à peu près. À part quelques recettes de cuisine, ça fait du bien aussi, hein, quand c'est réussi. Je ne dis pas non. Mais le bonheur est en vente à la poste. Se réaliser soi-même. Est-ce que vraiment, c'est cela qui va nous permettre d'être heureux. Au fond, si on essaye de définir, parce qu'en fait, c'est bien quand même au bout d'un moment de se demander, mais on parle de quoi ? Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Le dictionnaire dit, c'est un état de conscience, un état de la conscience pleinement satisfaite. Synonyme, la béatitude, le bien-être, la félicité, le plaisir, le contentement, l'enchantement, l'euphorie, l'extase, la joie, le ravissement, la satisfaction. Rien que ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut viser dans tous nos efforts dans notre vie ? Est-ce que le but de la vie, c'est se réaliser, s'accomplir soi-même et travailler exclusivement à cela, comme si nous n'existions que pour satisfaire nos besoins ? Comme si les objets qui pourraient servir à ça n'étaient que des moyens pour satisfaire nos besoins, pour notre auto-satisfaction, c'est essentiel au fonctionnement de la société de consommation, on est d'accord, mais rechercher constamment l'auto-satisfaction, c'est un peu masturbatoire, au bout du compte. Alors, il y a des besoins en nous et en dehors de nous. Nous devons travailler à y pourvoir, mais il y a des. Au fond, on rencontre quand même des tâches, des exigences qui nous interpellent, qui comptent peut-être plus que nous-mêmes, que notre petite personne, des responsabilités. On peut se poser la question, de quoi suis-je responsable ? Envers qui suis-je responsable ? À vue humaine, il y a des gens vis-à-vis de qui je suis engagé. Mon épouse, mes enfants, mon entourage, mes obligations professionnelles. Il y a des obligations comme ça, des choses qui nous interpellent, qui convoquent notre responsabilité et qui donnent un certain sens à notre existence. Une action, ça nous invite à agir et lorsque nous agissons de cette manière-là, nous pouvons aussi trouver des satisfactions qui viennent par-dessus le marché, sans qu'on les ait cherchées pour elles-mêmes, mais quand on a bien réussi à faire quelque chose, eh bien, on éprouve un certain plaisir, on est content, une satisfaction. Et on a dit, je veux faire ça pour obtenir cette satisfaction-là, ce plaisir-là, non. Ça vient par-dessus le marché. Alors, on peut agir en fonction de ces appels qui correspondent à ces responsabilités qu'on a et mener une vie qui, dans l'ensemble, nous paraîtra tout à fait satisfaisante. Maintenant, j'aimerais essayer de vous montrer quelque chose. On va voir si ça marche. J'aurais besoin du fil, c'est celui-ci. On pourrait examiner la vie humaine sous forme de deux dimensions. Ou bien on réussit, ou on échoue. Le succès à droite, l'insuccès à gauche, ou l'échec. Et puis dire, mais finalement, où est-ce que j'en suis sur cette ligne ? Sous-entendu, la plénitude, le bonheur, la satisfaction va être davantage du côté du succès que du côté de l'échec. Et on agit pour. On essaye de travailler à atteindre ce succès. Mais c'est une dimension. Et il y en a une deuxième qu'on pourrait montrer comme ça. Une deuxième qui, un autre axe avec l'accomplissement ou le désespoir. Et si on regarde que le niveau du succès, on manque quelque chose, on manque une dimension qui est importante. Parce que on peut avoir beaucoup de succès et se trouver pas loin du désespoir. Pensez à toutes les stars adulées qui étaient Marilyn Monroe, Dalida, que sais-je, d'autres stars qui se sont suicidées parfois en disant mais c'est pas possible. Hein, pas elle, pas lui, alors que. Et on ne comprend pas. Mais le succès peut accompagner, être accompagné d'un grand désespoir parce qu'il y a d'autres aspects dans la vie qui ne sont absolument pas satisfaits. Ou bien alors, rarement peut-être, mais j'en sais rien, hein, mais tant mieux pour ceux à qui ça arrive, l'accomplissement. En même temps, il y a des situations où on se dit, mais c'est terrible, il n'y a rien dans cette vie, c'est un échec. Mais il y a l'attitude de la personne dans ces situations d'échec apparent, ça peut être la maladie, ça peut être une infirmité, ça peut être les conséquences d'un accident, ça peut être une situation économique qui ne va pas, mais où ces personnes, étonnamment, par leur attitude, sont impressionnantes. Hein. Et il y a parfois plus d'accomplissement chez certaines personnes confrontées à des situations, à des épreuves douloureuses et difficiles, que chez les gens à qui tout semble réussir. Et puis, cet accomplissement, on ne le voit pas quand on regarde sur la ligne de l'échec, c'est juste un point. Mais ça peut être quelque chose tout à fait étonnant. Donc, ne nous laissons pas aveugler par ce qui est visible facilement. Alors, si dans le schéma que j'ai montré, on remplace le terme d'accomplissement par la confiance en Dieu ou par la foi, on a quelque chose qui devient aussi intéressant pour nous quand on essaye cette fois-ci de prendre une perspective plus biblique sur cette question du bonheur, de la réussite, etc. Parce que devant Dieu, cette attitude de foi, c'est un accomplissement invisible aux yeux de l'homme de la réussite, pour qui c'est une folie et un scandale. Je ne juge, 1 Samuel 16, verset 7 dit, « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et là, dans cette dimension invisible aux hommes, mais que Dieu voit, il y a quelque chose d'extrêmement précieux. Et je pense aussi pour la personne qui vit cela, une forme d'accomplissement. Je suis avec mon Dieu. On a chanté plusieurs choses aussi en relation avec ça tout à l'heure. Et vous savez, si je regarde la personne de Jésus, il a prêché sur le bonheur, dans le sermon sur la montagne, quand il nomme heureux toute une série de catégories de personnes. Alors, à vue humaine, ça fait souci. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté, qui ont le cœur pur, qui procurent la paix, qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ça le bonheur ? À vue humaine, c'est... Arrêtez, non, mais ça joue pas. C'est pas comme ça qu'on est heureux. Ça va pas. Et Jésus dit, mais à cause de moi, et il y a toute la... J'ai tu les promesses qui vont avec ces déclarations heureux, ceci. Hein ? Ces gens sont heureux pourquoi ? Car le royaume des cieux leur appartient, car ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, on aura de la bonté pour eux, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu, le royaume des cieux leur appartient. Voilà les promesses qui vont avec ces déclarations, ce qu'on appelle les béatitudes, où Jésus parle du bonheur. Et les lois du royaume de Dieu sont franchement vachement différentes des lois du fonctionnement de l'humanité standard. Et si on ne se rappelle pas qu'effectivement le royaume de Dieu fonctionne d'une manière très différente du monde dans lequel on vit, si on se laisse trop obnubiler par tout ce que le monde vient nous donner comme enseignement, comme obligation, comme impératif, etc. Tu dois faire ceci, tu dois être heureux, il faut comme ça, etc. On se perd. Hein? Ceux qui sont heureux selon le Christ, selon les hommes, c'est les plus malheureux. Mais il y a ces promesses extraordinaires. Et alors, il y a aussi une autre parole de Jésus par rapport à cet objectif de vouloir réussir sa vie. Réussir sa vie, construire son bonheur humainement sur cette terre, c'est faire son salut, en quelque sorte. D'ailleurs, les philosophes dont je parlais tout à l'heure et qui écrivent des livres sur le bonheur, disent il s'agit de créer une spiritualité laïque qui nous permette d'être heureux et de trouver notre salut ici-bas avec nos propres moyens. C'est clairement dirigé contre l'idée que le salut ne dépend pas de nous et que nous sommes dépendants de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et c'est répété plusieurs fois dans les évangiles. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et quand on pense à nos enfants et ce qu'on souhaite pour eux comme vie, et puis qu'on pense à la vie qu'a eue Jésus. Bon, jusqu'à 12 ans, c'est bien allé. Il était soumis à ses parents, hein, il leur obéissait, vraiment. À 12 ans, il fait une fugue, une espèce de fugue, parce qu'au lieu de rentrer avec ses parents, il reste à Jérusalem, et puis on le retrouve dans le temple en train d'enseigner. Bon. Et je veux dire, bon, c'est quand même quelqu'un qui est mort jeune, dans des conditions terribles, très honteuses. À vue humaine, c'est affreux. Hein, ce juste qui meurt comme ça, c'est un échec complet. Mais les quelques hommes qu'il avait suivis quand ils l'ont vu ressusciter sont allés bouleverser le monde. Alors voilà. Nous sommes appelés à suivre ses pas, sommes prévenus que le chemin peut être difficile. Donc dans ce sens-là, la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin de pur bonheur au sens courant du bonheur dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a un élément qui manque peut-être passablement dans le monde d'aujourd'hui et qui est très présent dans la vie chrétienne, qui ressemble au bonheur, mais qui n'est pas exactement la même chose, c'est la joie. La vie avec le Seigneur, elle est marquée par la joie. Nos conceptions habituelles du bonheur, il vaudrait mieux les laisser de côté et renouveler notre intelligence par la compréhension de ce que le Seigneur veut nous donner. Déjà, on sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Paul qui cite Jésus dans Actes 20, 35. Nous pouvons nous réjouir, nous devons nous réjouir. Soyez toujours joyeux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La joie est un fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, il est éprouvé, on peut l'éprouver même durant les situations difficiles, si je crois que Jacques fait partie, dit des choses qui sont la parole de Dieu, mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il n'y a que la dimension, que cette dimension de joie est absente. Quelques versets. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière. Soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Dit Proverbe 17, 22. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ou Psaume 118, 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et nous qui sommes nés de nouveau, c'est des choses que nous pouvons comprendre. Mais nous devons peut-être apprendre à les vivre davantage, à moins nous laisser impressionner par les choses que nous voyons, que nous entendons, dans notre vie courante, chez les gens, dans les médias, etc., par rapport à la manière dont il faudrait vivre et par rapport au bonheur. Ne vous conformez pas au monde actuel, dit Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et au fond, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas besoin de chercher à me réaliser ou à m'accomplir moi-même. Le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et donc, je crois que ce que j'ai compris de ce que j'avais à dire dans un message, dans ce message que je vous donne aujourd'hui, c'est effectivement qu'il faut travailler à nous déprendre de tout ce qui voudrait nous prendre vers des choses qui n'ont rien à faire avec le bonheur qu'on peut éprouver dans notre vie avec le Seigneur. Et j'aimerais prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous aspirons au bonheur. Nous voulons cette plénitude, nous voulons ce contentement, nous voulons cette joie abondante et nous comprenons que c'est auprès de toi que tout cela se trouve. Que ton Saint-Esprit nous aide à discerner ce qui est juste et bon. Que ton Saint-Esprit nous aide à nous déprendre de tout ce que le monde voudrait mettre sur nous comme enseignement foireux. Et que dans les situations qui nous sont données, qu'elles soient difficiles ou faciles, nous puissions rester fidèles à toi, à ta parole, et connaître cette joie que tu promets. Que ton nom soit béni. Amen.